Alors pour terminer cette année, il semblait bon de revenir à la Sainte Famille, à Nazareth, contempler la Sainte Famille comme prototype et exemple de toutes les familles chrétiennes. Je reprends une expression de Jean-Paul II. Jean-Paul II qui était conscient, comme il disait, que la famille se trouvait au centre du grand affrontement entre la vie et la mort, entre l'amour et ce qui s'oppose à l'amour. C'est ce que nous avons essayé de voir les dernières fois. Et donc pour mieux vivre ce combat, nous avons besoin de nous réfugier dans la Sainte Famille, de la prendre vraiment comme modèle. Alors je vous invite d'abord à méditer le fait que Jésus a consacré 30 ans de sa vie à cette vie familiale, seulement 3 ans à sa vie publique. Et par là, il a voulu nous montrer que la famille est et devait être première, la vie familiale devait être première, non pas au sens d'un absolu, mais au sens d'une première école, pour reprendre une expression chère à Jean-Paul II, première école de l'amour et de la communion. Qu'est-ce que la famille nous fait vivre? Elle nous fait vivre l'amour essentiellement comme une ouverture et un accueil les uns des autres. Elle nous fait vivre l'amour dans ce qu'il a de plus profond, c'est-à-dire comme le moyen d'une communion dans laquelle se trouve la vraie joie. Je lisais récemment un livre de psychologie qui, dans les premières paroles, le titre s'intitule « Quête de soi ». Nous vivons dans un monde dans lequel tout nous pousse à rechercher l'épanouissement de ce que nous portons en nous-mêmes. Développer son potentiel. Il y a au fond deux manières de voir la vie, soit en termes de développement de soi, soit en termes d'ouverture de soi et de sortie de soi. Alors l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vrai que la question de fond, c'est de se dire où est la vraie réussite de ma vie? Et où est la vraie joie? Est-ce qu'elle est dans le fait de me trouver moi-même? Ou est-elle dans le fait de trouver Dieu et de vivre en Dieu une communion de cœur et d'esprit avec les autres dans laquelle je jouis de ce qui est en fait la seule vraie joie, la joie de l'union? Ça, c'est une vérité métaphysique, c'est-à-dire l'homme est fait pour trouver sa joie en définitive dans quelqu'un d'autre que lui-même. Il a besoin aussi de se trouver lui-même, c'est vrai, parce qu'on ne peut se donner que si on se possède. Mais la recherche de soi telle qu'elle est présentée dans le monde aboutit finalement à une impasse. Si on ne comprend pas qu'elle est relative à un chemin plus profond, qui est un chemin, le chemin de la communion. J'espère que Josiane ne va pas me contredire. Actuellement, on voit bien que ce chemin de communion des personnes, il est notamment mis à mal par l'activisme ambiant. L'activisme ambiant est beaucoup lié à cette recherche de soi. Une réalisation de soi à travers un travail dans lequel on peut s'épanouir. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que en touchant la question de la Sainte Famille, nous touchons une question très délicate. qui est de savoir ce qui prime dans notre cœur. Donc cette vie de communion qui trouve son école dans la famille, sa première école, où le développement de nos talents, de nous-mêmes à travers le travail. C'est évident que pour beaucoup, ici je parle spécialement pour les femmes, il n'y a pas le choix de toute façon, il y a une nécessité de travailler. Mais au-delà de la question du temps qu'on consacre à la vie familiale, du temps qu'on consacre de présence aux personnes, aux enfants et aux conjoints, il y a la question de savoir ce qui prime dans notre cœur. Je pense que beaucoup de femmes qui auraient la capacité matérielle et aussi psychique de se consacrer davantage à la vie familiale comme première école d'amour pour elles-mêmes et pour leurs enfants n'arrivent pas à faire le pas tout simplement à cause de la pression culturelle. C'est pour ça que je parle. C'est pour essayer de rendre plus libres les cœurs, c'est pas pour faire une pression par rapport à un choix très délicat et qui est à voir donc avec le conjoint aussi, mais pour nous permettre de prendre un peu de recul par rapport à ce qui est, je dirais, l'idéologie dominante des temps que nous vivons. Intellectuellement, quelque part, c'est difficile de ne pas accepter le fait que l'amour trouve sa plénitude dans la communion et que c'est d'abord ça qu'il nous faut creuser et que ça vaut la peine d'y consacrer du temps. Mais ça ne veut pas dire que notre cœur, pour autant, arrive à suivre. Parce que une vie familiale, je dirais, considérer que cette vie familiale prime et accepter d'y consacrer plus de temps, c'est aussi parier sur une réalité qui est insignifiante aux yeux du monde. C'est parier aussi sur un chemin qui se fait dans les cœurs et dont la fécondité et la beauté ne se révèlent pas immédiatement et qui peut passer par des moments de grande souffrance, de solitude, de sentiment d'inutilité, d'impuissance, de perte de soi. Il ne s'agit pas d'opposer la vie familiale et puis un engagement dans l'Église et la société. Mais puisque le magistère insiste beaucoup sur le fait qu'il y a un génie propre de la femme et que la société en a besoin. Mais il s'agit de comprendre l'ordre des choses. L'Écriture dit « Veille d'abord sur ton cœur, car c'est de là que jaillit la vie ». Si la vie familiale, c'est d'abord l'éducation du cœur, et si ce cœur humain a besoin de mûrir, de se fortifier, de trouver un chemin d'ouverture réelle à l'autre en apprenant la douceur, la patience, l'écoute, l'accueil, toutes ces qualités qui se développent naturellement dans une vie familiale, si c'est ça qui est à la racine de la vie en nous, alors ça vaut la peine d'y consacrer un temps premier comme Jésus lui-même a voulu consacrer tout ce temps de sa vie cachée à Nazareth, 30 ans, et seulement ensuite il s'est lancé, si je puis dire, dans sa vie publique. Il me semble que dans l'Évangile, on peut voir que dans la vie de Marie, il y a une sorte d'élargissement, au sens où, au moment où Jésus commence sa vie publique, nous voyons Marie elle-même, dans le cadre d'un mariage, ayant une place, sociale et une mission à remplir, comme aussi nous la voyons 3 ans plus tard à Jérusalem au milieu des apôtres, ayant là une place dans l'Église. d'abord la communion, ensuite la mission. Nous ne sommes pas faits pour vivre en vase clos dans un petit îlot que serait la famille. Je connais des personnes qui sont tentées de se couper du monde pour vivre leur bonheur en famille, en tâchant de se tenir à l'écart de tout ce qui va mal dans le monde, ne veulent pas savoir. Mais il ne s'agit donc pas de faire de la vie familiale, au fond, le lieu d'un égoïsme collectif, mais il s'agit d'en faire la piste de décollage. Pour être capable de vivre la vie du monde avec un cœur fortifié par cet exercice premier de l'amour et de la communion. J'avais envie de prendre une analogie. Pour nous comme prêtres, le premier lieu d'ouverture du cœur et d'exercice de la communion, c'est entre prêtres. C'est beaucoup plus facile d'avoir l'impression d'aimer des personnes avec lesquelles on ne se frotte pas tous les jours. Et c'est évident pour nous comme prêtres, il y a une tentation à fuir cette vie communautaire entre prêtres parce qu'elle est plus douloureuse. Et de penser que ce n'est pas finalement essentiel. L'essentiel, c'est la mission. Je me donne pour les autres, pour ceux qui ont besoin de moi. Mes confrères prêtres, c'est pas si nécessaire. De toute façon, ils connaissent le bon Dieu. Et puis... hein? Mais en faisant l'impasse, voyez, sur cette première marche qui est la communion fraternelle, en fait, on se rend compte, j'ai eu le temps de m'en rendre compte dans ma vie apostolique, on se rend compte qu'on vit de l'intérieur, en fait, on perd la source, une source de fécondité par rapport à notre apostolat lui-même. Et voyez, les paroles de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », s'adressent aux disciples, en fait. Les disciples sont réunis autour de lui. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », et ensuite vous porterez du fruit dans le monde. Alors, ça vaut pour une vie communautaire, religieuse, une vie du presbytérium des prêtres qui sont unis, puis aussi une vie paroissiale, qui est une petite communauté, qui doit vivre le plus intensément cette vie de communion de cette petite communauté qu'est la paroisse, pour pouvoir ensuite accomplir la mission dans le monde. Bien, pensez que la première église, la première communauté, avant la communauté des prêtres, avant la communauté religieuse, avant la communauté paroissiale, c'est la famille. Et donc, savoir y revenir comme le premier lieu où Jésus nous attend pour former notre cœur, ça peut demander beaucoup de courage dans certaines situations. Que la tentation de fuite, notamment des hommes, par rapport à cette vie familiale, elle est actuellement énorme. Et tout ça, évidemment, enrobé de « je me sacrifie, je me donne, je travaille de plus en plus pour les enfants, pour mon époux. »
Ce sujet-là est un sujet hyper douloureux et difficile. J'ai 8 de mes enfants qui sont mariés et c'est un sujet qui revient sur le tapis, mais sans arrêt. Cette souffrance en fait, qu'il faut traverser au début. Alors moi j'écoute beaucoup mes filles et belles-filles sur le sujet. Et c'est vraiment, il y a un décapage dans le... Certainement, enfin moi je... En les écoutant tous, le décapage, les premières années de mariage, elles passent toutes par une espèce de purification pour accepter la condition d'épouse, de mère de famille, et pour les hommes, le combat dont parlait Louis à l'instant, mais je trouve que c'est de plus en plus virulent et difficile. Alors je me suis demandé si c'était parce qu'on était à Paris, mais finalement, mes enfants qui habitent plus loin de Paris ont le même combat. Donc, c'est parce que la vie parisienne est stressante, donc les choix, on ne les a pas tout le temps. Pour la plupart des femmes sont obligées de travailler, donc bon. Mais en tout cas, la souffrance existe, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Le sujet, il n'est pas là, en fait. Il y a un travail à faire pour mettre de l'ordre et se dire qu'est-ce qui est à la première place dans ma vie. On en discute sans arrêt avec les filles. Et on se dit, bon, si on veut mettre Dieu à la première place, ensuite s'occuper correctement de son couple, ensuite de s'occuper de ses enfants, ensuite de s'occuper de son travail, ensuite... Donc, il n'y a pas de règle. Je connais des femmes qui travaillent et qui font bien ces choses-là, bien en ordre, et des femmes qui ne travaillent pas et qui ne le font pas. Et on peut, moi je voyais bien au début de mon mariage, moi je ne pouvais pas travailler étant donné que Philippe déménageait sans arrêt. Mais je pouvais avoir la tentation de me distraire sans arrêt, de me dire bon, je peux aller retrouver d'autres dames et puis faire des bridges, faire je ne sais pas quoi, faire n'importe quoi. Il y a une tentation de fuir cette purification qu'il y a à vivre, d'être à cette place de mère de famille ou d'épouse, enfin de remettre tout en ordre. Alors je me disais, j'essayais tout le temps à l'intérieur, enfin de me dire, bon, de revoir régulièrement, est-ce que Dieu est à la première place, est-ce que je néglige mon mari, est-ce que je néglige mes enfants, et puis après le travail éventuel. J'ai eu des périodes de ma vie où j'ai travaillé. Mais toujours c'est un sujet permanent, et je vois que c'est un sujet de plus en plus de souffrance.
Alors de mon côté, en tant qu'homme, j'ai peut-être déjà abordé ça depuis le début du cycle, mais moi j'ai fait ce qu'on appelle une carrière, avec tout un système qui vous prend et qui vous emmène plus loin et où ça marche. Bon. Et puis en plus, derrière, on a tout ce raisonnement qui consiste à dire l'enseignement de l'Église dit qu'il faut que les chrétiens s'engagent partout, qu'ils soient présents, donc on m'appelle à faire quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Donc moi je suis souvent posé cette question, donc est-ce que je dois renoncer parce que au titre de ce qu'on est en train d'évoquer là. La sorte de réponse qui n'est jamais une réponse définitive, mais l'approche qu'on peut avoir, c'est peut-être justement la grâce du mariage qu'on a eu très souvent discuté, dans les deux sens d'ailleurs, parce que c'est vrai que même les épouses, soit qu'elles travaillent, soit qu'elles soient très engagées dans des tas d'activités même les plus utiles, on peut se laisser prendre par plein de choses. Et donc c'est vrai que la grâce du mariage, peut-être, c'est justement d'être capable de se tirer la manche l'un l'autre sur ce sujet-là.
Il me semble que la nature est bien faite. Je veux dire par là, dans ce chemin de maturation progressive du cœur, c'est évident que dans les premières années où les enfants sont tout petits, la femme est appelée à consacrer donc plus de temps de toute façon aux enfants, et qu'il y a là tout un chemin de purification, de sanctification intense qui peut être vécu, et qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent et qu'elle-même grandit dans l'amour, elle a de plus en plus de temps, et que de fait elle peut à ce moment-là déployer ce qui s'est formé en elle pour un service plus large. En fait, ça se fait naturellement. Mais voyez, il vaut mieux porter un fruit mûr au moment voulu que de vouloir courir trop vite, de vouloir tout faire à la fois, sans respecter les temps de Dieu, alors qu'ils sont marqués par, par les besoins qui correspondent aux besoins des enfants.
Moi, ce qui m'étonne énormément dans les discussions de mes enfants, c'est que ce qui est central, en fait, c'est leur acceptation ou non d'avoir un vrai chemin avec Dieu. Et le combat, en fait, la clé, elle se trouve toujours à ce niveau-là. Je vois à travers ça la souffrance que ça représente à notre époque de faire le choix de Dieu pour des femmes. C'est vraiment... je ne me souviens pas, nous... Enfin, moi, je me souviens avoir souffert au début de mon couple, surtout de... Je disais à Philippe, il partait énormément, et je me disais, j'ai des conversations qu'avec des enfants. Moi, qui suis un peu cérébrale, ça me torturait un peu. Donc, moi, j'ai souffert de ça. Mais quand je vois le combat qu'ont les jeunes femmes maintenant, je suis impressionnée, quoi. Je dis, vraiment, c'est... elles ne sont pas soutenues par la société, c'est compliqué, c'est douloureux. Voilà. Il y a vraiment... mes filles, celles qui ont lâché prise dans ce domaine, elles m'ont toutes dit, c'est à partir du moment où je suis rentrée dans une vraie vie spirituelle que j'ai pu faire le clair. C'est vraiment... Il y a un combat spirituel très fort à ce niveau-là, quoi.
Moi, j'ai travaillé dans... J'ai eu un métier que j'ai beaucoup aimé, puisque c'était dans l'urbanisme. J'ai travaillé 10 ans... Et j'avais une carrière qui avait bien démarré. Je faisais des choses importantes, puisqu'entre autres, je travaillais sur la gare de la Part-Dieu, vous connaissez peut-être bien. Et un jour, ma belle-mère me lance une petite remarque en me disant « Un jour, tu t'occuperas de choses importantes. » Et moi, j'étais en train de lui expliquer comme je faisais des grandes choses. Je me suis dit « Malgré tout, c'est vraiment une belle-mère, quoi. Elle a l'art de dire des choses... » maintenant, je comprends mieux ce qu'elle a voulu me dire. Voilà, je trouve que c'était important de vous dire ça. Ce qui m'a permis, moi, d'arrêter, alors que j'aimais beaucoup ce métier, c'était vraiment aussi une vocation, au vrai sens du terme. Ce qui m'a permis d'arrêter, c'est le regard de mon mari sur ma place à la maison. Je pense que les conjoints ont vraiment un rôle important. Parce que le travail de la maison est en effet un travail qu'il est très difficile d'expliquer, d'exprimer, qui ne se voit pas justement. Et le regard d'un mari est important, cette espèce de confiance, de « tu me fais le cadeau ». Le jour où j'ai arrêté, où j'ai compris qu'il valait mieux que j'arrête parce que j'avais 4 enfants, je reconnais que j'ai pleuré. Mais Jean-Pierre a toujours considéré que c'était un cadeau. Un très beau cadeau que je faisais à la maison et que je le faisais à lui. Et ça m'a souvent soutenue quand j'hésitais. Voilà, puis peut-être encore une chose, moi je comprends beaucoup les choses a posteriori. Et un jour, on a pu aller à la messe ensemble à 7h30 du matin. Et on y allait régulièrement 2 fois par semaine à 7h30. Et je me disais, j'ai de la chance de pouvoir être avec mon mari là à la messe, c'est super. J'avais beaucoup admiré les gens qui avaient pu y aller avant. Je me disais, voilà, c'est sûrement des gens très saints, ils font des choses. Mais ça m'a permis de comprendre finalement que le Seigneur, en fait, toute ma vie avait béni ce que je faisais à 7h30 du matin. Je ne pouvais pas être à la messe, c'était le moment de faire partir tout le monde. Et j'ai compris a posteriori finalement que... Bien sûr, ce n'était pas une messe que je faisais, mais quand même, j'étais à ma place et que le Seigneur bénissait finalement tout ce que j'avais fait dans ma vie à 7h30, alors que je pouvais enfin aller à la messe à 7h30.
Moi, ce que je peux dire, effectivement, que ça a été vraiment un très beau cadeau que Catherine nous a fait de prendre la décision de s'arrêter. On est même parfois un peu dépassé par les événements, parce que pour jauger ce cadeau, il n'y a que vraiment Catherine qui pouvait... elle était vraiment sur la vague, entourée d'architectes, d'urbanistes, des réunions avec les élus, c'était très grisant. Et j'avoue que c'est aujourd'hui que je réalise, avec tout ce parcours que nous avons eu, ce beau cadeau et cet équilibre, en plus on a des enfants pas scolaires, Catherine a vraiment fait... à vraiment assister, à vraiment accompagner les uns les autres. Ça nous a permis aussi en couple d'avoir des activités tournées vers l'extérieur. Donc Catherine, vraiment, moi-même dans la communauté, elle me prépare beaucoup de choses qui me fait, quand moi j'arrive de mon travail, elle a défriché le terrain. Non, c'est vrai que vraiment, c'est super. Et ça nous a vraiment permis de... Et puis ça a évité beaucoup de tensions. Il y en a eu beaucoup, mais on en a eu moins certainement parce qu'il y avait... Catherine était vraiment un modérateur. Et c'est vraiment un très beau cadeau, quoi, je le dirais vraiment toute ma vie. Notre famille et toutes les difficultés qu'on a eues, on les a surmontées par cet amour de sa vie, de Catherine pour sa famille. Je te remercie.
Encore.
Catherine a dit qu'elle comprenait les choses a posteriori, mais essayant de nous mettre à la place de Joseph et de Marie, il leur est confié le Messie, il doit sauver le peuple d'Israël, il doit même sauver le monde. Et cet enfant Dieu reste à la maison et il travaille le bois. Et eux-mêmes, je dirais, se retrouvent donc dans un chemin où humainement, on ne peut pas voir le fruit, ils ne pouvaient pas voir le fruit que ça pouvait porter pour la rédemption du monde. Il aurait été tellement plus logique, comme disait le père Thomas Philippe, que Jésus, à 17 ans, monte à Jérusalem et fonde une école pour être rabbin. Et par la suite, il aurait pu avoir des disciples un peu plus évolués intellectuellement que ceux qu'il a allé chercher au bord du lac de Tibériade. Donc, il faut penser que Marie et Joseph ont vécu cette vie familiale, plus encore que bien des mères qui peuvent se poser des questions sur le sens de leur vie, dans la foi et dans l'espérance aveugle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. Sois attaché à ta besogne, occupe ton bien, vieillis dans ton travail, n'admire pas les œuvres du pécheur, ce qui brille. Confie-toi dans le Seigneur et tiens-toi à ta besogne. Car c'est chose facile aux yeux du Seigneur, rapidement, en un instant, d'enrichir un pauvre. Dans cette vie qui ne brille pas aux yeux du monde, qui est sans éclat, il y a tout un chemin d'intériorité qui s'offre aux personnes pour comprendre, pas simplement intellectuellement, mais comprendre vraiment dans son cœur et dans sa chair, que ce qui prime, c'est pas les choses qu'on fait, mais l'esprit dans lequel on les fait. Parce qu'au fond, il reste que ça. Si on ne s'applique pas à l'amour, si on ne s'applique pas à faire les petites choses avec amour, à ce moment-là, de fait, ça n'a plus de sens. Cette accumulation de besognes et de contraintes. Donc, en fait, je pense qu'actuellement, les personnes qui peuvent accepter de vivre ce sacrifice dont Catherine a parlé, dont Anne-Claire a parlé, peuvent le vivre librement et pas, je dirais, dans une sorte de tiraillement et d'une manière contrainte, mais vraiment librement, c'est celles qui font un chemin d'intériorité. J'ai envie de dire qu'à la limite, maintenant, ça demande de rentrer dans un esprit contemplatif. Mais précisément pour suivre ce chemin, d'une vie intérieure, on a besoin d'avoir un modèle. On a besoin de regarder celle qui est la reine des anges, la reine des apôtres, la mère de l'Église, élevée au-dessus de toutes les autres créatures, de la regarder soumise aux besognes les plus simples de la vie quotidienne. On a besoin d'un modèle, on a besoin de se laisser attirer par une vie intérieure qui nous soit donnée comme, donc comme modèle d'une vraie réussite de vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la Sainte Famille. On a besoin de contempler Marie, mais il ne faut pas oublier non plus de contempler Joseph, qui lui aussi est avancé sur ce chemin d'une vie de plus en plus cachée aux yeux du monde. Alors, je dis, il y a un chemin d'intériorité, il y a un chemin en même temps qui nous fait découvrir donc là où est la première mission de notre vie chrétienne. La première fécondité de notre vie. Elle nous est signifiée par les deux mystères, deux premiers mystères joyeux que nous méditons dans le rosaire, qui est le mystère de l'Annonciation et le mystère de la Visitation. Dans ces deux mystères, nous sont dit la première manière, la manière la plus fondamentale dans laquelle nous pouvons donner la vie au monde. Le mystère de l'Annonciation nous dit que tout doit commencer par un fiat, par un consentement à la volonté de Dieu, que la première forme de l'amour, c'est l'obéissance à Dieu, l'abandon, que là est le vrai don de soi, dans l'abandon de soi à Dieu. Et l'Annonciation nous dit que dans chaque acte d'abandon, de remise de nous-mêmes entre les mains de Dieu, vécu dans la soumission aux choses à faire, c'est-à-dire je peux faire de tout ce qui est contrainte de la vie un acte libre de soumission à Dieu, en recevant les choses de la main de Dieu. Le mystère de l'Annonciation nous dit que cette vie-là, qui consiste à faire de tout ce que nous avons à faire, autant d'actes d'obéissance amoureuse à notre Père du Ciel, unis à Jésus, dans son obéissance, et bien que par là, nous sommes pour Jésus un frère, une sœur et une mère, selon sa promesse, celui qui est ma mère, qui est mon frère, ma sœur, ma mère, celui qui fait la volonté du Père. Donc en fait, dans tout fiat que nous prononçons au fond de notre cœur, quoi que nous fassions, nous concevons Jésus dans notre cœur. C'est ça être une mère pour le Christ, c'est le concevoir dans son cœur. Ayant conçu Jésus dans notre cœur, ensuite dans l'acte extérieur, la visitation, je visite une personne. Dans l'acte extérieur, parce que cet acte extérieur s'enracine dans mon fiat, est vécu à l'intérieur de ce fiat, eh bien, dans l'acte extérieur, une simple salutation, je donne Jésus à l'autre. Donc, une mère qui vit ses tâches quotidiennes, aussi monotones et pesantes soient-elles, pour son humanité, mais qui les vit librement au fond d'elle-même, comme autant de possibilités qui lui sont données de prononcer un fiat renouvelé, eh bien, elle donne Jésus au monde. Elle donne Jésus à ses enfants, elle donne Jésus à son époux, mais elle donne Jésus au monde. Évidemment, ça peut se vivre aussi dans un travail, je dirais, humainement passionnant. On n'est pas obligé de mettre son cœur dans la réussite visible, on peut mettre son cœur dans l'obéissance, tout en faisant un travail qui nous intéresse humainement. C'est plus difficile. Plus difficile parce qu'on est plus facilement pris par l'aspect de jouir de l'impression d'être utile, de faire des choses et tout ça, en oubliant que le premier service qu'on a à donner aux autres et au monde, c'est de laisser passer la présence de Dieu. Donc en fait, ce que nous apprend la Sainte Famille, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal. C'est ça le sacerdoce baptismal. C'est de faire de toutes nos activités autant de sacrifices spirituels qui donnent la vie, qui laissent passer la présence du Rédempteur, du Christ. Nul n'a plus grand amour que celui-ci. On traduit « donner sa vie pour ce qu'on aime », mais littéralement, je le redis ici, c'est « déposer son âme pour ce qu'on aime ». L'immolation silencieuse de l'âme, pour reprendre une expression de Marthe Robin, l'immolation silencieuse de son âme, vécue dans l'acquiescement à des besognes qui ne en sont en rien humainement gratifiantes, peut-être le chemin de la participation la plus intime et la plus profonde au mystère de la rédemption. Pas la chercher loin, cette participation. Offrez vos corps en hostie vivante. On offre son corps vers ses actions concrètes en hostie vivante quand on les vit, quand on vit ses actions comme autant de sacrifices spirituels qu'on offre à Dieu le Père par Jésus-Christ. Marie et Joseph se sont enfoncés dans cette vie d'offrande, d'abandon, en suivant Jésus. Moi, j'insiste avec le père Thomas Philippe pour dire que Marie et Joseph à Nazareth se laissent éduquer par Jésus. Évidemment, on aime bien dire qu'ils ont éduqué Jésus, qu'ils lui ont appris à lire. C'est bien, mais plus profondément, Marie est la fille de son fils. Plus profondément, à Nazareth, elle est disciple du Sauveur qui est là, dans cette sainte famille, et qui vit le premier, ce chemin d'abandon au Père. Il s'agit d'une fécondité qui reste cachée aux yeux du monde. Et c'est pour ça que cette vie familiale, Nazareth, est traditionnellement appelée la vie cachée. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 1:3.
Je trouve que j'aime bien ce que dit Louis sur le fait que Jésus s'est éduqué, t'as dit, Marie-Joseph. Éduque Marie-Joseph, je trouve que nos enfants nous éduquent. C'est, moi, ça m'a paru évident rapidement à quel point les enfants nous révèlent tous nos manques d'amour, toutes nos faiblesses, tous nos énervements, tout. Voilà, moi je crois que c'est eux qui nous... Je crois aussi que c'est eux qui nous éduquent, et je crois que toutes les mères de famille, enfin les pères aussi, s'en rendent compte, et d'autant plus que les enfants qui sont les plus difficiles. J'ai toujours dit, heureusement que j'ai pas eu que ma fille aînée, quoi. Elle était tellement sage et facile que je me suis dit, si j'avais eu qu'elle, on n'aurait pas beaucoup avancé, quoi. Mais après, il y en a eu quelques-uns qui se sont chargés de faire notre éducation.
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph, l'époux de Marie, a, dans cette annonciation qui lui est propre, hein, qui s'est faite au travers d'un songe, a été amené à considérer toute sa vie d'époux, sa vie familiale, comme un service du Rédempteur. Comme l'a dit Paul VI, il a fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui lui est liée. Il a converti sa vocation humaine à l'amour familial en une oblation surnaturelle de lui-même, de son cœur, de toutes ses forces, à l'amour mis au service du Messie. Marie, Joseph, comme celui qui se fait donc consciemment et librement serviteur de la mission du Messie, en acceptant jusqu'au bout l'effacement de lui-même dans ce service. Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'en réalité, la vie familiale peut être vécue, toute vie familiale, par le sacrement de mariage, peut être vécue relativement à la mission du Christ, c'est-à-dire que, à travers cette vie familiale, précisément par le sacerdoce baptismal, nous pouvons mettre en réalité toute notre énergie, tout notre cœur au service du Messie, du Christ. Donc Joseph dit notamment au père de famille, hein, qu'il est possible de vivre un service humain, celui d'assumer la tâche de chef de famille, enfin du travail que l'on fait, dans cet esprit dans lequel tout est pour l'unique maître et l'unique sauveur qu'est le Christ. Voilà, ça représente un chemin, évidemment, un chemin progressif de décentrement de soi, et du besoin qu'on a d'aimer pour être aimé, alors qu'ici, il s'agit simplement de servir la gloire de l'unique Sauveur. Il y a un homme qui veut témoigner.
J'essaye qu'il m'inspire, mais c'est vrai que Saint-Joseph, c'est quand même une unité, donc c'est plus effectivement on peut cheminer avec lui par une démarche du cœur, par rapport, il ne faut pas attendre des leçons matérielles, enfin pas d'abord, j'en sais rien, de toute façon il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai qu'en en ayant parlé un certain nombre de reprises avec Louis, on voit bien qu'il y a un chemin qui vraiment peut nous emmener. Bon, il y a tous les obstacles évidemment qu'on met soi-même en travers, mais c'est vraiment un chemin c'est un chemin de conversion. Quoi.
Je vous ai parlé de l'Église comme petite famille et de l'autorité propre du père de famille. Je vous cite cite le passage où apparaît de manière la plus visible l'exercice de cette autorité par Saint Joseph. C'est l'ange qui lui apparaît en lui disant « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Et il est dit simplement « Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. » Il exerce son autorité et sa responsabilité, il l'assume. Mais en même temps, on voit qu'il fait exactement ce que l'ange lui a dit de faire. Ici, je repense à ce que Benoît XVI a dit dans son enseignement aux prêtres. Il leur a dit « La docilité du peuple à ses prêtres dépend de la docilité des prêtres envers le Christ. » C'est-à-dire, il n'y a d'autorité réelle, morale, profonde, que si soi-même on se positionne comme serviteur de l'unique maître. Et donc en repensant à ça, je me dis, bien c'est tout à fait naturel que des femmes aient du mal à accepter de rentrer dans une certaine, enfin en tout cas de vivre cet exercice de l'autorité quand cet exercice est mal vécu de la part de l'homme. C'est évident que dans une société qui a perdu le sens du primat de Dieu et du fait que toute autorité tire son origine de l'autorité de l'unique maître qui est Dieu lui-même, eh bien, on ne pouvait aboutir qu'à une réaction qui a été le féminisme et qui est une réaction tout à fait légitime. Donc je dis ça pour modérer un petit peu certaines choses qui pourraient être mal comprises. Hein, c'est évident que c'est le lieu d'une conversion, ce rapport entre l'épouse et l'époux, c'est le lieu d'une conversion pour l'un et pour l'autre permanente, et il ne faut pas s'étonner que ce soit un lieu de combat. Mais gardons le modèle de la Sainte Famille. Ici, il est clair, hein, c'est Joseph prit l'enfant et la femme. C'est pas Marie prit Joseph et l'enfant. Non. Mais Joseph n'était vraiment qu'instrument de l'unique Seigneur. Et je remarquerai aussi qu'à un moment difficile pour Joseph, qui était le moment du recouvrement de Jésus au temple, Joseph a pu vivre une angoisse particulière du fait de sa responsabilité, du fait de pendant 3 jours ne pas savoir où était l'enfant, qui lui était confié, à lui d'abord, en tant que père adoptif. Bien, d'une manière étonnante, dans le recouvrement de Jésus au temple, c'est pas Joseph qui parle, c'est Marie. Joseph, peut-être qu'il est trop touché, trop angoissé pour Marie. En tout cas, Marie, il sent dans son cœur que c'est à elle de parler. Pourquoi nous as-tu fait cela? Joseph est là, mais ce n'est pas lui qui parle. Donc, il peut y avoir des moments où c'est l'épouse vraiment qui prend les devants, hein, d'un père qui a du mal, hein, ou il sent que c'est à elle en tout cas de le faire. Vous voyez, il y a cette souplesse qui existe là. Je pense à ça parce qu'on va parler d'une mère de famille qui voudrait que son époux anime la prière, mais il n'y arrive pas, et résultat, comme il n'y arrive pas, ben, il n'y a pas de prière, alors que s'il n'y arrive pas, ben, il faut le faire. pour lui. Il faut l'entraîner. Il faut dire, faut pas rester passif. Il faut pouvoir, je dirais, s'entraider l'un l'autre. Tout ça, c'est dans une complémentarité, une liberté qui fait qu'on sent le moment où on doit, je dirais, éventuellement prendre les devants. C'est pas, voyez, c'est cette attitude de respect vis-à-vis de l'autorité du chef de famille ne signifie pas du tout de rentrer dans une sorte de mauvaise passivité. Moi, je me dis souvent, comme prêtre, mais ça vaut pour les parents qui sont ministres dans l'éducation, que les enfants, ils ont besoin d'entendre la voix du bon pasteur à travers la voix de leurs parents. Parce que c'est la seule voix qui puisse parler à leur cœur. Et pour qu'ils entendent la voix du bon pasteur à travers la voix de leurs parents, il faut que ceux-ci vivent tout dans cet esprit d'obéissance. Et aussi, peut-être qu'il y a une certaine obéissance mutuelle, mais avec un ordre quand même. Le rôle et la place de la femme sont pas, de l'homme et de la femme ne sont pas interchangeables. Je dis ça parce que Jean-Paul II, lui, il aimait parler de soumission mutuelle. C'est pas faux. C'est sur fond de soumission mutuelle qu'en réalité, une seule soumission commune à Dieu, qu'on peut vivre bien cette autorité propre de l'époux. Je rajouterai aussi une chose. Vous voyez, c'est quand Joseph dit oui à l'appel de l'ange, qui lui dit, bon, ne crains pas de prendre Marie comme épouse. C'est à ce moment-là, dans sa soumission à l'appel de Dieu, à la volonté divine, que Marie lui est redonnée. Autrement dit, en réalité, si on regarde la Sainte Famille, on se rend compte que ce qui unit le plus profondément les cœurs et les esprits, c'est cette obéissance à Dieu commune. C'est dans cette offrande de notre vie à l'unique, je dirais, l'unique amour absolu, hein, qui est l'amour divin, qu'on peut se retrouver, je dirais, uni dans ce fond commun, on peut dire, hein, qu'est le royaume de Dieu en chacun. Donc, quand Jean-Paul II dit l'intensité spirituelle de l'union entre l'homme et la femme provient en définitive de l'Esprit Saint, cet esprit qui est donné à Marie de manière très claire au moment de l'Annonciation, mais qui a été aussi donné à Joseph moyennant son acceptation de sa mission, bien, il veut dire que pour que ce soit l'Esprit Saint qui unisse les cœurs et les esprits, bien, que les époux se retrouvent l'un et l'autre devant la volonté de Dieu. Voilà, il y a une chose qu'on pourrait souligner, c'est que chaque fois dans la Sainte Famille, on voit que Joseph, il prend l'enfant et la femme. Il est le gardien de l'enfant et de la femme. Entre Marie et Jésus, il y a une intimité qui s'est vécue, qui a été l'intimité la plus grande. Hein? Évidemment, il y a un privilège de Marie, hein? Et il y a une union de cœur et d'esprit auquel Joseph a été introduit pour une part, mais pour une part seulement. Mais ce que l'on voit, c'est que Joseph s'est mis au service de cette union. Il a protégé cette union, cette communion entre Marie et Jésus. Et ça, c'est donné comme modèle aux prêtres. Joseph est pris souvent, Jean-Paul II, il disait toujours une longue prière à Saint-Joseph avant de célébrer la messe. Parce qu'il allait tenir Jésus dans ses mains, dans l'hostie, comme Joseph avait tenu l'enfant Jésus dans ses mains. Et Joseph est donné comme exemple pour les prêtres, mais Joseph est donné comme exemple pour tout service apostolique, pour toute tâche dans l'Église, qui en réalité doit toujours rester au service de la communion. Écoutez ce que dit le catéchisme. La communion des hommes avec Dieu est la fin qui commande tout. Ce qui dans l'Église est moyen sacramentel. C'est-à-dire toute la hiérarchie, Toute la structure, tous les sacrements sont au service de cette intimité de l'âme avec Dieu, symbolisée par la relation de Jésus et de Marie. C'est en ce sens-là que Jean-Paul II a pu dire que la dimension mariale de l'Église précède la dimension pétrinienne, pour parler simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est service actif, apostolat, tout ça, encore une fois, est au service de la vie intérieure dans l'Église. La Sainte Famille nous le rappelle à travers ce service de Joseph, qui protège cette vie intérieure. Il y a des maris qui sont jaloux de ce que leur femme aime plus Jésus qu'eux. Et ils pourraient trouver leur joie, au contraire, à se faire serviteur de cette relation d'amour que l'épouse, que les enfants vivent avec Dieu.
Simplement, dire un mot des parents seuls, parce que en entendant tout ce qui se dit là ce soir, je suis passée par toutes les difficultés d'une maman qui doit choisir entre la maison, les enfants, le mari, et puis le travail, et puis la vie ensuite m'ont montré que voilà, j'avais un travail et que c'est peut-être par ce travail que j'ai pu me sauver et sauver ma vie. Mais il est incontestable, et ça, je vous en fais le témoignage formel, qu'il faut vraiment reconnaître que dans un couple, on a la chance d'avoir une autorité de l'autre. Et qu'au contraire, quand on est seul, et qu'il faut en effet tout assumer, c'est très lourd. Et donc, si parfois il peut paraître difficile à une maman d'accepter l'autorité, la présence, la décision du mari, qu'on a du mal à la comprendre, à la partager, je voudrais vous dire ô combien vous avez de la chance d'avoir un mari qui puisse vraiment vous aider et vous guider sur le chemin de cette décision.
Je voudrais terminer en vous rappelant que Saint Joseph est le patron de la Sainte Mort. Parce que dans la tradition, il est mort avant que Jésus commence sa vie publique. D'ailleurs, ça donne encore plus de mérite à sa vie de foi, parce qu'il n'a pas vu l'aboutissement de sa mission. Il n'a vu qu'un Jésus travaillant le bois. Et Saint Joseph, donc, dans la tradition, est mort en la présence de Jésus, accompagné par Jésus, hein, jusqu'au bout, et par son épouse. Moi, personnellement, je le prie tous les jours pour mon papa, depuis des années, qu'il obtienne la grâce d'une sainte mort. Et je voudrais profiter du fait que Saint Joseph est là pour nous aider donc à quitter ce monde dans la présence de Jésus, accompagné par Jésus, comme lui, pour vous dire un petit mot quand même sur l'accompagnement des personnes de notre famille jusqu'à la mort. En tant qu'ancien aumônier d'hôpital, j'ai envie de souligner déjà deux aspects. C'est d'abord que le chemin de la souffrance, je parle de souffrance profonde, hein, est un chemin de vérité. Il y a des lumières qui sont données. Les épreuves sont des failles qui laissent passer la lumière. Il faut croire en cette action mystérieuse de Dieu dans les cœurs, qui dit lumière, dit chemin de conversion, de purification, Mais tout ça suppose aussi la possibilité de... Il y a un besoin de dire les choses. Besoin de se confesser, mais aussi de pouvoir parler, dire des choses qu'on n'a jamais pu dire et qui apparaissent de plus en plus évidentes à la conscience et au cœur. Et de fait, tout est fait pour qu'on reste dans le non-dit. Mais de penser que le premier service qu'on puisse rendre à une personne qui souffre, c'est de pouvoir lui laisser la possibilité de dire ce qui est ce que le Seigneur est en train de lui montrer pour l'aider à aller jusqu'au bout de ce chemin de lumière. Peut-être un chemin à la fois de conversion personnelle et de réconciliation avec les personnes avec lesquelles il n'avait pas pu parler depuis des années. Bon, vous devinez facilement ce à quoi je fais allusion ici très brièvement. Je voudrais aussi souligner le fait que la souffrance est un chemin d'espérance. Il y a dans la souffrance un appel, dans l'épreuve de la maladie, un appel à l'espérance. C'est-à-dire à descendre en soi pour découvrir là où est la vraie vie. Que de malades m'ont dit leur souffrance d'être passé à côté de l'essentiel. Mon grand-père aussi, avant d'être fusillé, a écrit une lettre en disant « on n'est jamais assez bon ». On se rend compte du primat de l'amour et de la communion, justement. On se rend compte qu'on est passé à côté de cet approfondissement des relations essentielles et vitales de la vie, avec Dieu et avec les autres. Et les personnes ont besoin d'être accompagnées aussi dans ce chemin d'espérance, les aider à découvrir davantage encore cette réalité cachée qu'est le royaume de Dieu, la découvrir en elle-même avant qu'ils la découvrent par-delà le voile de la mort. Ils ont besoin d'en faire une quasi-expérience maintenant pour partir en paix, en pouvant se dire « je sais où est la vraie vie ». Je l'ai goûté, je l'ai pressenti. Et de fait, il y a souvent des grâces d'union fortes qui sont données à des personnes vivant de grandes épreuves, qui sont des grâces d'anticipation de la vie du ciel pour leur permettre de partir vraiment dans une certitude qu'un amour les attend. Et ça s'accompagne comment? Ça s'accompagne en étant soi-même dans l'espérance. L'espérance est auto-communicatif. Donc, en fait, toute personne qui souffre, qui est proche de la mort, qui est dépouillée de tout ce qui brille, de tout ce qui est superficialité du monde, nous aide nous-mêmes et nous appelle à nous remettre devant cette unique nécessaire. Combien de fois j'ai ressenti en tant que prêtre que je n'étais pas en état de dire un mot parce que je n'étais pas centré sur Dieu? Et que mes paroles étaient vides et creuses par rapport à ce que vivait la personne. Et donc, vivre l'accompagnement des personnes proches de la mort comme étant pour soi-même un chemin de recentrage sur l'unique nécessaire, ça c'est quelque chose de fort à vivre. Moi, je l'ai vécu pendant 10 ans. Je dis ça tout en soulignant le fait qu'il ne faut pas, évidemment... je dirais négliger les petits espoirs, les espoirs humains, celle d'une amélioration, même d'une guérison. Peut-être que personne se fait illusion, mais on sait bien qu'il y a un rythme par lequel elle pourra progressivement accepter vraiment son état, que quelque part, le plus souvent, au fond d'elle-même, elle le sait. Mais elle parle des vacances qu'elle va faire l'été prochain, alors qu'elle est en phase terminale. Hein? Savoir le respecter, ça, mais pas l'encourager. Pas dire, mais oui, on va faire des vacances ensemble, ce sera bien. Non. Là, se situer à un niveau psychologique, dans une sorte de dopage de la personne au niveau psychologique, et l'empêcher de faire un chemin de vérité qu'elle a besoin de faire aussi. Donc, on respecte, on peut se taire, éventuellement demander aux médecins ce qu'ils disent, parce que des fois les médecins ne sont pas très courageux. Moi je trouve que l'idéal, c'est le médecin qui dit progressivement, au fur et à mesure que la maladie évolue, la réalité des faits, sans pour autant prophétiser l'avenir. J'ai aussi connu des médecins qui ont dit à une malade, vous finirez pas le mois. Et la personne, 2 mois après, elle était chez elle. Les médecins ne sont pas là pour dire l'avenir. Je ne suis pas, à l'aise avec les médecins qui disent, on a un diagnostic comme ça, vous allez mourir. Mais votre état est très grave et vous pouvez mourir, oui. C'est différent. Vous voyez, même dans notre tête, le fait de se mettre dans la tête, la personne va mourir, c'est pas une bonne chose, je trouve, personnellement. Parce qu'on n'en sait rien, l'avenir appartient à Dieu. Là, ce qui est important, c'est que la personne fasse un chemin de vérité par rapport à son état présent. Elle est gravement malade. Pour l'instant, les médecins ne voient pas de soins possibles, donc il va falloir passer un soin palliatif. Mais on n'est pas obligé d'en dire plus. J'ai vu peu de miracles, mais j'en ai vu. Et j'ai vu beaucoup de rémissions tout à fait inattendues. Ça, c'est un point délicat, mais il y a un juste équilibre à trouver qui n'est pas du tout évident, hein, que j'ai personnellement mis des années à saisir. Je ne dis pas que je l'ai trouvé, mais en tout cas, à savoir qu'il existait. Enfin, je dirais que pour donner Jésus au malade, le meilleur chemin, c'est de le voir en lui. Recevoir de l'autre pour pouvoir lui donner. Se laisser toucher par Jésus à travers l'autre pour pouvoir permettre à l'autre de se laisser toucher par Jésus à travers nous. Vous voyez, par rapport à l'offrande de la souffrance, le fait que les personnes, progressivement, en découvrant cette vie intérieure, cette possibilité de descendre dans une profondeur d'amour, de relation à la fois avec Dieu et avec les autres, ils suivent un chemin d'abandon. Et ils peuvent comprendre, pressentir que dans ce chemin d'abandon, ils entraînent les autres. Par ce chemin d'abandon, ils entraînent les autres dans la conversion. Et en fait, c'est ça la souffrance rédemptrice. C'est la souffrance vécue dans cet esprit d'abandon, d'obéissance, hein, qui fait qu'on peut aider des âmes à sortir de la désobéissance du péché. Et ça, les personnes le pressentent que par la communion, la solidarité qui existe entre les âmes, le chemin qu'elles font intérieur va rejaillir sur les leurs. Alors, on peut rajouter « offrez vos souffrances », mais c'est rien d'autre que ça, en fait. Le fond de la question, c'est d'arriver à les entraîner sur ce chemin d'abandon, dans l'espérance de la vraie vie qui s'ouvre à eux. L'abandon me demande de terminer à l'heure, mais on l'a déjà dépassé. Enfin, ça fait rien, on va quand même s'arrêter maintenant, je pense, pour être raisonnable. À moins qu'il y ait une question, le final, pour ce dernier enseignement de Nazareth, non, ça va ?